au courrier des théâtres, c'est très simple.
C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre.
Ouvrez ce sein que je ne saurais voir.
Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche. Je tire avec douceur l'affaire qui me touche.
Roi des pitres, hors de scène à l'instant.
Mais parce que toute sa vie, parler en alexandrin ou cuisine, ça lasse.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie ?
Nous allons le savoir dans 5 minutes.
Bonjour, bonjour à tous. Un levée de rideau qui nous emmène à Avignon, au théâtre de l'Optimiste, qui est vers la place Pie. Et je vous donne tout de suite le numéro de téléphone pour réserver au 04 65 87 92 15 ou sur billet Réduc pour un week-end 10, un week-end de théâtre avec deux pièces, 10 mais pas que de Tim Walkens et Dyspraxie de Hugo Martin. Nous entendrons d'abord par téléphone un des directeurs de l'Optimiste, Grégoire Aubert, et Hugo Martin pour sa pièce Dyspraxie. Bon spectacle à tous. Bonjour Grégoire.
Bonjour Sylviane.
Alors,
bonjour aux auditeurs.
Ben oui, bien sûr.
Et aux auditrices, bien évidemment.
Et aux futurs spectateurs, spectatrices.
Oui, qu'on espère nombreux.
Alors Grégoire Aubert, on se connaît bien, mais vous êtes l'heureux, comment on va dire, gérant, président,
oui.
Gestionnaire.
Alors, pas président, on veut dire que nous sommes trois à être des artistes associés autour d'un théâtre dont on assure la programmation à l'année. Voilà.
Alors, on se connaît depuis Avignon, on se connaît de la saison, cette première saison de juillet 2023. C'était différent d'avoir ce théâtre à trois ? Ça faisait autre chose, une autre programmation, une autre ambiance ?
Oui, parce que quand on fait la programmation, qu'on est trois, et nous on est bêtement mathématiques, c'est-à-dire qu'on vote et qu'on est toujours... Il faut qu'il y ait deux personnes qui votent favorablement pour qu'une décision soit prise, voilà. Tout simplement. Ou pas favorablement d'ailleurs, mais
d'accord.
Peu important. Au moins la décision est prise et pour la programmation c'est évidemment valable. Donc, on choisit nos spectacles, soit avec l'unanimité, soit au moins avec deux voix sur trois.
Alors, voilà. Un petit bilan de juillet 2023, c'était super, plein de séances complètes.
Alors, bilan formidable à plus d'un niveau. Donc, c'est le théâtre de l'Optimiste à Avignon. On avait 8 spectacles par jour, plus 3 autres les jours de relâche. Et il y a eu des très, très, très belles représentations. Surtout, le festival était une réussite globalement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de monde dans les rues d'Avignon et dans les salles. Et là, je dis bien pour tout, c'est pour l'ensemble du festival et l'ensemble du off. Voilà.
Une très belle édition. Alors, sachant que celle de 2024 sera réduite, il faut savourer 2023.
Il faut savourer 2023 et c'est vrai qu'au niveau de l'Optimiste, on a eu la chance, un, d'avoir des spectacles qui ont très très bien marché, pas tous, il faut être honnête aussi, mais tous ont vraiment eu de très bons retours et on a réussi surtout, tu me parlais de la réussite ou non, enfin de l'ambiance générale du festival, on a réussi à créer quelque chose au niveau du théâtre sur la convivialité, le public comme les compagnies, les artistes avaient plaisir à venir chez nous, prendre un café, s'installer. C'est un lieu d'échange, de partage, évidemment de théâtre, tant qu'à faire.
Oui, vous squattez la rue devant, là, on ne peut même plus passer.
Non, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, ça a été une grande réussite humaine de ce côté-là. Tout le monde avait plaisir à venir chez nous, voilà, public comme compagnie. Et c'est vraiment ce qui est ressorti du bilan. Oui, de cette édition.
Alors, bravo Grégoire, peut-être redire le nom de tes associés tout de même.
Bien sûr.
Grégoire Aubert.
Également comédien, comme moi. Pascal Le, c'est une femme, Tronche, avec qui je vais monter un prochain spectacle l'année prochaine. Pascal Tronche et Jean-David Stepler, comédien de son état, qui lui, pour l'instant, réside à Paris et qui vient évidemment très régulièrement dans le sud, à Avignon, pour nous aider à...
Bien sûr, il faut travailler à trois. Hein, c'est une...
Voilà.
Alors, ça ne suffit pas le Festival d'Avignon. Quand vous avez repris l'Optimiste, il y avait déjà l'idée de faire des week-ends de théâtre, de gérer un petit peu l'année. Et donc, le premier week-end théâtral, c'est le 24 et le 25 novembre. C'est pour ça que vous êtes là à l'antenne. Et merci de nous annoncer donc les deux spectacles. Alors, je sais que Hugo Martin a la possibilité de venir au studio, donc parlera plus longuement d'une des deux pièces. Donc, pour équité, on va un peu parler de plus de l'autre. Alors, quels sont les deux ?
Alors, la première, c'est justement eux qui sont venus me voir en premier. C'est 10, D-Y-S, 10, mais pas que. C'est un spectacle écrit et joué par Tim Wilkins, qui n'est pas spécialement connu. Il vient de Gap, enfin du sud, mais l'autre sud, plutôt vers les Alpes. Et il raconte effectivement sa vie, son parcours et également sa manière de dépasser un soupçon son handicap parce qu'il a dyspraxie, dyslexie, enfin tous les il a un peu tous les symptômes, c'est ce qu'il raconte là, je vais pas tout révéler. L'autre spectacle c'est Dyspraxie, écrit et interprété par Hugo Martin, mis en scène par Jean-Luc Cohen-Rimbaud, et on est là vraiment aussi heureux parce que lorsque Tim Wilkins, enfin sa maman, est venue me contacter pour présenter son spectacle, j'ai tout de suite pensé à l'associer au voilà. spectacle de Hugo. Hugo que je connais quand même depuis très longtemps puisque il a été un de mes élèves quand il était adolescent. Alors depuis, il a fait son chemin, son parcours. Il a fait le conservatoire de Nîmes, la compagnie maritime à Montpellier, et là maintenant voilà, il monte son premier spectacle on est content de l'accompagner, de lui proposer de venir dans un cadre on va dire professionnel.
Ça fait plaisir aussi quand on enseigne de voir que on sème un petit peu. On sème des graines.
Je suis d'accord, mais on savait qu'Hugo avait quand même ça en lui depuis longtemps. Franchement, ça fait quelques années que j'ai un peu arrêté, mais il y a beaucoup d'années où j'étais animateur ou prof, comme on veut le préciser, et tout le monde ne peut pas devenir comédien professionnel. Enfin, tout le monde n'a ni cette ambition, c'est la base, ni cette vocation, et puis, ou l'envie.
Ni cette folie. Oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup tout de même de sacrifices, il y a beaucoup de difficultés, mais la passion l'emporte surtout. Grégoire, merci de nous dire les horaires, parce qu'il faut réserver.
Alors, on commence le samedi, c'est le 24, à 18h par 10, pas que, 10, mais pas que. Voilà.
D'accord, 18h le samedi.
Voilà. Et à 20h, c'est Dyspraxie de Hugo, le samedi soir.
Et le lendemain. Et
le lendemain, le 26, on commence par Dyspraxie ce coup-là, c'est à 15h, un dimanche après-midi. Et on enchaîne à 17h par 10, mais pas que, voilà.
Bien.
C'est-à-dire, ce qui était intéressant, c'est de faire une sorte de week-end, deux spectacles sur le même thème, même si je sais qu'on va y trouver beaucoup de différences, mais quand même avec deux jeunes comédiens, l'un qui a 19 ans, l'autre qui en a une trentaine, 30, je crois exactement.
Donc place aux jeunes, Grégoire.
Oui, ça me fait du bien, ça me rajeunit un petit peu.
question, Grégoire. Il y a d'autres week-ends théâtraux en prévision ou c'est encore en projet ?
Alors, c'est encore en projet, mais il y en a. Non, il se trouve qu'on a repris le théâtre au mois de janvier. On a été vraiment happé par le festival qu'il nous fallait monter pour l'édition 2023. Là, on a déjà quasi bouclé l'édition 2024 au niveau de la programmation, j'entends. Donc, c'est vrai qu'on se penche sur une programmation pour avoir un théâtre qui soit ouvert à l'année.
Voilà.
Donc on a des cours d'improvisation notamment les lundis et mercredis soirs, des spectacles régulièrement d'improvisation animés ou organisés par notre professeur Dimitri Marraine. Et en parallèle, nous on fait quelques week-ends par-ci par-là. Donc là, on fait ce week-end-là. Je peux vous dire que le 2 décembre, on a un événement, ce qui s'appelle Cadavres exquis en association avec les EAT, les écrivains associés du théâtre, Antenne Méditerranée, et que là, on ferme le théâtre, pas pour les ateliers, mais pour les spectacles, on reprendra qu'au mois de mars. Voilà.
Très bien.
Parce que l'hiver est assez rude, et comme notre théâtre n'est pas si bien isolé que cela de la rue par le froid, on préfère, pour le confort de tout le monde, arrêter là. Et en mars, il va y avoir une vraie programmation, avec beaucoup d'avant-premières aussi, de compagnies qui joueront au festival. et d'autres événements. Et bien sûr que, de toute façon, en mars, on communiquera aussi la page Facebook de l'Optimisme.
Ah, d'accord. Eh bien, voilà. Grégoire, on va laisser la place à Hugo Martin.
Oui, merci. Que je salue au passage.
Merci à toi, merci à Pascal, merci à David, et puis à très bientôt.
À très vite, et merci à toi de nous avoir accordé ce temps d'antenne.
Ben, je t'en prie.
J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas. Sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson.
Sur Radio Alliance Plus, nous venons d'écouter une musique choisie par notre second invité, Hugo Martin, qu'on a la chance d'avoir dans notre studio. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Parce que Grégoire Aubert, un des directeurs, un des associés de l'Optimiste, était en répétition et donc l'émission était par téléphone. C'est beaucoup mieux comme nous sommes face à face, Hugo.
Oui. Oui.
Et donc, on va parler de votre spectacle « Dyspraxie ». Que vous avez conçu dans les années 2020 et que vous jouez en 2023. Et là, il y a un week-end théâtral, le week-end 10, oui. D-Y-S.
Exact.
Parce qu'il y a un autre jeune comédien qui fait une pièce. Et donc, les 25 et 26 novembre, il y a deux possibilités, deux pièces, deux jeunes acteurs, 10, mais pas que, et Dyspraxie, donc avec vous-même.
Exactement.
Alors, je suppose que vous êtes dyspraxique. On reste dyspraxique ou on peut guérir?
Malheureusement, je pense qu'on reste dyspraxique. Alors, bien sûr, on peut, soigner. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais soigner un petit peu ces lacunes, ou en tout cas de les compenser. Je pense qu'on n'est pas dyspraxie. Je pense qu'on peut, on le devient. Mmh. Alors, ça peut être des circonstances un petit peu familiales. Moi, je sais que j'ai vécu des moments très difficiles dans mon enfance qui a dû très probablement contribuer
à déclencher ce
trouble. Voilà.
Et alors, qui s'est manifesté comment? Qu'on n'a pas... Maintenant, peut-être qu'on ne le dépisterait plus. Vous êtes un petit trentenaire, un jeune trentenaire. Peut-être que maintenant, on le détecterait plus vite, peut-être.
Maintenant, alors il faut savoir que la dyspraxie, c'est un trouble que l'on connaît mal, contrairement à la dyslexie et à la dyscalculie. Et encore, je suis gentil. Avec réserve, exactement. Moi, j'ai été diagnostiqué très tard. J'ai appris à lire et à écrire à l'âge de 8 ans. J'ai commencé dans une scolarité normale de la maternelle jusqu'en CP. Et de là, ensuite, on a vu que j'avais énormément de très grosses difficultés. Et là, on m'avait placé dans une CLIS. À l'école primaire de Vauvert, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Ça s'appelait Ulysse, maintenant ça s'appelle école d'inclusion, ça change,
ouais.
Ça change quasiment tout le temps. Et de là ensuite, j'ai continué après dans une SECPA, au collège de la Vallée Verte, de la 6e jusqu'à la 3e.
Vous étiez conscient de ces difficultés
Je commençais à en prendre conscience, notamment surtout autour de moi, parce que j'étais victime à cause de ça également de harcèlement scolaire. Et en même temps aussi dans la vie quotidienne, les professeurs ne comprenaient pas ce que j'avais.
Il pensait que vous étiez une mauvaise tête.
Voilà, une mauvaise tête, un paresseux, feignant, qui ne veut pas travailler. Je me ramenais chaque fois dans mon bulletin scolaire des 1 sur 20, 2 sur 20. Donc ça valait aussi des querelles avec mes parents, avec mon père notamment, quand c'était pour faire les devoirs, c'était vraiment la guerre. Mais j'en ai gardé à cause de ça un traumatisme.
Oui, bien sûr.
C'est pour ça que quand j'ai écrit ce spectacle, je parle vraiment de ce que j'ai vécu, de mon histoire, de mon quotidien.
Pour aider aussi ceux qui en sont atteints
pour aider, pour comprendre, pour aider bien sûr ceux qui sont atteints de dyspraxie, donc peut-être qu'ils peuvent se reconnaître, mais aussi ceux qui ne le sont pas, parce que quand je l'ai joué au Télémaque Théâtre, ça parlait à ceux qui ne l'étaient pas, et que parfois même ils se reconnaissaient.
Et à quel niveau
ça peut être par exemple sur les mathématiques ou sur le français, en fait je pense que inconsciemment on a un degré, parce qu'il faut savoir que la dyspraxie, même la dyscalculie, dyslexie, il y a un degré divers. On peut être vraiment très dyspraxique ou avoir une petite dyspraxie ou une légère dyspraxie.
On a tous inversé des lettres,
on peut dire que tout le monde peut avoir une forme de dyslexie ou de dyscalculie.
Et il n'y avait aucune matière dans laquelle vous vous éclatiez ou vous étiez bon?
Là où je me plaisais le plus, c'était histoire-géo. Histoire-géographie, j'avais d'excellentes notes. Je pense que c'était la seule d'ailleurs. Parce que ça me plaisait.
La curiosité,
l'histoire. C'est vrai qu'en plus, en culture générale, je n'avais aucun problème. J'étais passionné d'histoire. Mon oncle est un passionné d'histoire. Et d'ailleurs, je m'y intéresse toujours. Je n'avais vraiment aucun problème. Les seuls problèmes où j'avais, c'était vraiment en français et en mathématiques. Ouais. Mathématiques, c'était une catastrophe.
Oui, alors comme souvent, les enseignants, enfin, je ne leur jette pas la pierre, il y a tout un système, il y a tout un programme. On se base, soit il est bon, soit il est littéraire, soit il est scientifique, Donc ça a dû avoir des difficultés. Et le théâtre, il est apparu quand alors?
Alors le théâtre, il est apparu à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire que c'est grâce au théâtre que j'ai appris à lire et à écrire à l'âge de 8 ans. Mon père m'avait inscrit dans un atelier de théâtre amateur dans mon village, et en une année, j'ai réussi à apprendre à lire et à écrire.
Parce que vous vouliez connaître les textes, parce que vous les déclamiez,
Alors je ne connaissais absolument rien du théâtre. Je suis un petit peu comme Gérard Depardieu, quoi. Voilà, avec Jean-Laurent Cochet, exactement pareil. et donc du coup, j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire mon père il me faisait réciter à voix haute, et donc et petit à petit, bien sûr avec l'école, bien sûr naturellement en clisse, j'ai appris à lire. Donc je connaissais non seulement mon texte, mais je connaissais le texte des autres.
Des
aussi.
Autres. Voilà. Si jamais il y en avait un de malade, hop, vous preniez.
Exactement,
la place.
Tout à fait.
Et donc là, ça vous a changé la vie, Hugo.
Ah oui, complètement. Là, c'est à l'âge de 8 ans que je savais que je voulais être comédien. Ça ne m'a jamais quitté.
Jamais quitté. Et ce club amateur, vous l'avez poursuivi?
Je l'ai poursuivi pendant une dizaine d'années, d'abord avec Gaël Vieillon et ensuite avec Grégoire Aubert et la compagnie des Sans-Têtes.
On a dit dans l'interview que vous êtes un de ses anciens élèves.
Exactement.
Et je le félicitais justement d'avoir suscité une vocation, je ne sais pas, mais lui-même disait, il y a beaucoup d'amateurs, mais il y a peu de professionnels. Hein.
Donc, bien sûr.
Et ça ne vous a jamais quitté?
Jamais, jamais, jamais.
Et donc, non seulement vous êtes acteur, mais en plus vous écrivez, donc avec ces difficultés. Et c'est votre première pièce, Dyspraxie. Vous l'avez déjà jouée, et là, donc, vous êtes au théâtre de l'Optimisme. Mais dans un week-end intéressant, comme nous disait Grégoire, 10, deux pièces qui vont le traiter de façon différente. Donc ça peut être intéressant de voir comment vous le traitez. Vous, comment vous l'avez abordé, cette pièce? Est-ce que pour vous, c'est à l'écriture? Est-ce que pour vous, c'était évident? Est-ce que vous avez un metteur en scène?
Oui.
Donc, vous l'avez écrit sans idée. Enfin, c'est un one-man show, si on peut dire. C'est un seul en scène,
Un seul en scène, oui.
C'est meilleur que one-man show. C'est un seul en scène. Vous l'avez écrit sans penser à la mise en scène?
Non, absolument pas. Au début, en fait, j'avais déjà, pendant le confinement, tout était à l'arrêt, donc je l'avais pas écrit de suite, je l'avais imaginé dans ma tête. L'écriture a commencé d'abord dans ma tête, c'est-à-dire les scènes, chaque scène, et je l'ai mis sur le papier vraiment en 2023. En avril 2023, j'ai commencé à le mettre sur le papier.
De les mettre dans un certain ordre.
Je voulais d'abord que ça mûrisse dans ma tête. Voilà, tout à fait. Et ensuite, quand je l'ai écrit, c'était donc en avril 2023. Donc là, je l'ai écrit tant bien que mal parce que je n'ai pas l'écriture aisée. Mon père m'a beaucoup aidé au niveau de l'écriture et également mon agent artistique, parce que j'ai également un agent, Benjamin Rouvière.
Vous tapez à la machine, vous écrivez
À l'ordinateur.
Et même à l'ordinateur, ça coince.
Ça coince. C'est surtout au niveau de la syntaxe, au niveau de l'orthographe. Là, j'avais besoin d'aide. Après, au niveau de la construction de la pièce, je l'avais déjà. Je l'avais déjà.
Et vous saviez que vous alliez la jouer, que pour vous, c'était.
Exactement.
C'était très, très important.
Oui, pour moi, c'était extrêmement important.
Alors, on a écouté la chanteuse Tal dans Le sens de la vie. Je trouve que vous avez bien choisi. Et pourquoi? Enfin, on le devine quand on a écouté, mais pourquoi vous l'avez choisi quand je vous ai demandé une musique?
Alors pour moi, c'était une évidence parce que le sens de la vie, pour moi, enfant, je ne savais pas, j'étais un peu au fond du trou, quoi. On va dire, et c'est vrai que quand j'ai découvert le théâtre, c'est vraiment c'était pour moi le sens de la vie, quoi. C'est d'être, et d'ailleurs, elle le dit très bien dans sa chanson, d'être devant les projecteurs, quoi. Et donc voilà, donc ça me
en haut de l'affiche,
devant les projecteurs,
âgés.
Tout à fait.
Alors une fois que toutes les idées ont été mises sur papier, est-ce que c'est compliqué de le mettre dans un certain ordre?
Oui.
Parce que bon, il y a un temps limité. Vous savez que vous partiez sur une heure, sur.
Je suis parti au début. Alors je ne connaissais absolument pas la durée de la pièce. Et d'ailleurs, à cause de ma dyscalculie, on me posait souvent la question. Elle dure combien ta pièce?
Je ne sais pas.
Et ça a été bon. Maintenant, je sais qu'elle dure une heure. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on me disait mais elle dure combien de temps, j'étais incapable en fait de répondre parce qu'en fait, quand on est dyspraxique. On n'a pas la notion du temps, en fait. Donc pour moi, en fait, quand je la jouais ou quand je la mettais en scène avec mon metteur en scène, je n'avais
aucune notion de la durée.
Voilà.
Or, il y a tout de même des contraintes dans le théâtre.
Exactement. Alors c'est pour ça que quand j'ai commencé la mise en scène avec Jean-Luc Cohen-Rimbaud, qui est le metteur en scène, j'ai commencé à me chronométrer et voir à peu près combien elle durait, quoi. Voilà. Et après, j'ai commencé à faire des coupes, peut-être rajouter des choses ou enlever quelque chose, de peaufiner, quoi.
Est-ce que, sans dévoiler, est-ce que il y a des thèmes, par exemple, vous parliez de harcèlement, qu'il y a, par exemple, vous t'y dites, il faut que je mette une scène de harcèlement, faut que je mette une scène, au contraire, de confiance en soi, il y en a combien? Combien de...
Oui, alors effectivement,
de thèmes.
Alors je parle effectivement, il y a une scène où je parle de harcèlement et une scène qui m'a énormément marqué en étant ado au collège. En fait, chaque fois que je rentrais dans l'école primaire, j'en parle un peu, on me traitait de dembo parce qu'en fait j'avais une oreille plus grande que l'autre, sachant que je suis aussi sourd d'une oreille. Et cette scène m'a tellement marqué. J'en fais encore des cauchemars la nuit d'ailleurs. Il fallait absolument que cette scène, je la marque dans la pièce.
D'accord.
Et bien sûr, effectivement, il y a d'autres séquences que je parle, dont ma passion du théâtre, où à un moment, je me confie au public pourquoi le théâtre m'a sauvé la vie, quelque part, parce que je pense que sans le théâtre, je ne serais pas arrivé où j'en suis aujourd'hui. Donc il y a un moment d'émotion également, mais aussi un moment d'humour. Voilà, beaucoup d'humour aussi, parce que c'est à la fois, je voulais pas faire une conférence barbante, vraiment, je voulais le présenter donc le quotidien d'une personne dyspraxique, mais sans que ça soit vraiment barbante, je voulais vraiment que ça soit avec humour et avec de la poésie et de l'émotion.
Certaine distance aussi.
Exactement.
Parce que, comme vous dites, ça peut être utile aux personnes, chacun peut s'y reconnaître, donc on a tous, à des niveaux différents, eu des difficultés scolaires, des copains pas sympas. Et puis, malheureusement, on entend tellement parler de harcèlement et les enfants sont tellement cruels entre eux que c'est important. Vous êtes seul.
Oui.
Il y a des lumières.
Oui.
Il y a des décors, il y a des accessoires.
Alors, décor très simple. Voilà, très très simple, une table, une chaise. Voilà, je n'en dis pas plus.
Ça peut évoquer une classe, ça peut évoquer...
Souvent, ça évoque une classe. Voilà, je voulais vraiment une table, une chaise, que ça évoque vraiment la table de travail, d'ailleurs, pour un enfant qui est 10, pour moi, c'était vraiment
le lieu le
plus terrible, et je dirais même le plus angoissant, quoi. Quand j'en voyais un stylo, un cahier, quand il fallait les devoirs, j'ai fait « Ouh là 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 !»
Ouais.
Voilà.
Et Les jeux de lumière, c'est très important.
Oui,
là, c'est le metteur en scène qui a joué.
C'est le metteur en scène. Alors, bien sûr, c'était un travail de co-réalisation avec le metteur en scène, parce que lui, il m'aidait au niveau de la construction de la mise en scène, mais au niveau des lumières, je savais à peu près ce que je voulais avoir. Mmh. Voilà. Donc, il y a quelques petits jeux de lumière, effectivement, et beaucoup de voix off, d'enregistrement audio.
Ah,
voilà.
D'accord. Donc, vous l'avez joué déjà plusieurs fois.
Oui.
Vous allez continuer de la jouer.
Oui.
La première fois que vous l'avez joué, c'était à Vauvert, hein,
je
crois, vous m'avez dit.
Exactement.
L'angoisse au début.
Alors, oui, c'était une grande... Alors, c'était plutôt un test au début, parce que là, pour l'instant, ça ne durait pas une heure.
Mm-hmm.
Je l'avais joué 30 minutes ou 20 minutes.
Ouais.
C'était pour le Festival Jeunesse de Théâtre Amateur à Vauvert.
Mm-hmm.
Et on m'avait proposé, donc, du coup, de présenter quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je me lance.
Bien,
et là, j'ai commencé l'écriture. Voilà. Et ça a été un test et ça a eu un immense succès. D'autant plus que pour moi, c'était extrêmement important parce que c'était dans mon ancien collège.
Mmh. Une revanche,
donc,
quelque part.
C'était une forme de revanche, quelque part. Oui, oui.
Vous voyez, malgré tout.
C'était un symbole, un véritable symbole. Et en plus, pour le Festival Jeunesse Théâtre, qui pour moi, ce festival, j'ai commencé le théâtre que ce festival se créait.
Mmh.
Donc, tout était vraiment dans la symbolique.
Oui, bien sûr. Et alors, la vraie première, vous en souvenez ?
Ah ben oui, il y a un mois, c'était au Télémac Théâtre, le 7 et 8 octobre.
Oui, je voulais vous voir, mais je vous verrai ce dimanche, donc voilà. À l'Optimiste.
À l'Optimiste, voilà. Et ça a été un week-end extraordinaire. Donc, j'ai fait deux représentations, donc le samedi, affiché complet, et également aussi le dimanche, avec une soixantaine de personnes. Vraiment, les gens ont été très émus. Beaucoup de gens, même des personnes qui n'étaient pas 10, sont venus me voir, qui se reconnaissaient dans ce que je racontais. Et bien sûr, ça m'a valu aussi une belle critique dans le Midi Libre également aussi.
Oui, je l'ai lu.
Voilà.
Donc, vous continuez, vous voulez partager votre passion, puisque vous animez des ateliers dans votre village, à Muse.
Exactement.
Pour les personnes âgées, jeunes.
Pour les jeunes et les enfants, voilà.
Et pour vous, c'est aussi important que la pièce, que jouer ?
Pour moi, en fait, ça se complète. Ça se complète parce que je veux, à la fois en étant comédien, transmettre également ma passion, mon savoir de ce que j'ai appris en tant que comédien et en tant que jeune comédien, que ce soit dans des ateliers théâtre avec Grégoire ou avec Gaël, ou quand j'étais au conservatoire ou à la compagnie maritime, qui était mon école de théâtre. Donc, de transmettre vraiment ma passion du théâtre. Voilà.
Et en plus, avec cette expérience, c'est qu'on peut toujours essayer et réussir de
Absolument.
Vaincre les difficultés.
Tout à fait.
Alors, je rappelle que donc votre pièce Dyspraxie passe au Théâtre de l'Optimiste. Mmh. Alors, si je ne fais pas d'erreur, c'est le samedi 25 à 20h.
Oui.
Et le dimanche 26 à 15h, en alternance avec 10 mais pas que, de Tim Walkens. Ben écoutez, merci Hugo.
Merci à vous.
Bonne répétition, mise en place. Et merci justement de donner un exemple de comment vaincre ces difficultés. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Restez avec nous sur Radio Alliance Plus.